Bonjour, c'est mal à l'antenne. Vous êtes toujours sur Saint-Pierre Express 97.4. J'espère que vous passez une bonne journée. Il est actuellement 16h00. Après le CFA bâtiment, nous vous proposons sur le temps de la vie locale une présentation de l'association des compagnons bâtisseurs. Daniel, je te passe la parole.
Merci Maël. Donc voilà, une heure en compagnie des compagnons bâtisseurs avec autour de la table Emeline Néron, elle est animatrice Habitat au 12 rue de l'Aubrière à Saint-Pierre-des-Corps, Sylvia Welbès, animatrice technique, Vincent Renaud Giard, directeur adjoint des compagnons bâtisseurs, ainsi que Cindy en service civique dans cette association. Bonjour à vous.
Bonjour.
Voilà, pendant une heure, nous allons parler des différentes actions que vous menez sur le territoire corpo-pétrusien, mais également sur le territoire d'Indre-et-Loire et en région centre, car vous avez un grand rayonnement.
Absolument.
N'est-ce pas? Pour commencer, est-ce que monsieur Renaud Giard, vous pourriez présenter les compagnons bâtisseurs?
Alors, pour présenter rapidement les compagnons bâtisseurs, donc nous sommes un mouvement qui existe depuis plus de 60 ans, qui est présent sur l'ensemble du territoire français et qui s'est rendu connu par un mode d'intervention particulier auprès des habitants qu'on appelle l'auto-réhabilitation accompagnée. C'est l'idée d'accompagner des familles en difficulté dans la rénovation ou la réhabilitation de leur propre habitat. Et ça signifie que finalement, notre intervention, elle a à la fois une finalité technique, puisqu'il s'agit d'améliorer l'habitat et de lutter contre le mal logement, mais c'est aussi un support pour transmettre à l'habitant des gestes techniques et aussi aider plus largement la personne à se remettre en mouvement dans sa vie quotidienne. Donc c'est une approche qui est transversale à travers le chantier ou nos animations collectives.
Alors, c'est quoi le mal logement ?
C'est alors ça comprend l'habitat indécent, l'habitat dégradé, l'habitat indigne. Nous, on parle plutôt de problèmes qui se posent dans l'habitat et on va chercher à résoudre ce problème, qu'il soit lié à des questions énergétiques, qu'il soit lié à des questions d'usage, à des questions d'ergonomie. Et on intervient avec l'habitant pour essayer avec lui de résoudre ce problème qui se pose à lui dans la vie quotidienne.
Qui fait ce diagnostic de mal logement ? Est-ce que c'est l'habitant lui-même ou des personnes extérieures ?
Alors, il y a plusieurs situations. Il y a la situation où finalement on a un comité de suivi qui va faire remonter des situations de familles ou de personnes pour lesquelles qui rencontrent en fait des problèmes dans leur habitat, et on va collectivement décider si telle situation va être prioritaire par rapport à une autre pour intervenir le plus rapidement possible. Donc on a systématiquement un collectif qui réunit les travailleurs sociaux, qui réunit nos animateurs techniques, notre coordinateur, des financeurs également de nos dispositifs, et qui vont étudier les situations pour savoir s'il va être pertinent d'intervenir ou non chez telle ou telle personne.
Est-ce qu'on pourrait citer ces partenaires locaux ?
Alors, on a systématiquement les partenaires, les travailleurs sociaux, hein, qui font partie des comités de suivi. Ensuite, quand on travaille dans le logement social, on va travailler avec les bailleurs sociaux. Donc les bailleurs sociaux sont systématiquement présents dans les comités de suivi. Ça va dépendre ensuite du dispositif, puisqu'on a une action envers les locataires de logements sociaux et une action envers les propriétaires occupants, essentiellement en zone rurale. Et donc à chaque fois, on va avoir un comité de suivi différent, avec des acteurs différents autour de la table pour décider des situations qui vont être prioritaires par rapport à d'autres.
D'accord, donc une première phase de diagnostic faite en partenariat avec un collectif de partenaires qui disent, là il y a une situation de mal logement dans laquelle il va falloir mettre en place une action d'auto-réhabilitation accompagnée. Et vous avez dit tout à l'heure, ça permettait aussi de remettre les locataires ou les propriétaires en mouvement. Qu'entendez-vous par là ?
Oui, c'est finalement cette idée qui a fait peut-être la célébrité des compagnons bâtisseurs, mais c'est l'idée que le chantier est à la fois une finalité et un moyen. C'est une finalité justement parce qu'on essaye de résoudre le problème qui se pose à l'habitant dans son logement et d'améliorer son habitat. Mais c'est aussi un support parce que, à travers le chantier, on cherche à transmettre des gestes techniques, des savoir-faire, et en ce sens à favoriser l'autonomie de la personne dans son logement. Mais on cherche effectivement plus largement aussi à utiliser le chantier et la dynamique qui va être insufflée dans ce chantier pour remobiliser la personne, la remettre en mouvement, lui redonner confiance en elle. On travaille sur aussi l'estime de soi à travers le chantier pour finalement recharger plus largement le carburant de la personne sur tous les plans de la vie quotidienne. Donc c'est beaucoup plus large que le simple thème de l'habitat.
D'accord. Alors on va peut-être préciser auprès de nos auditeurs auditrices que ça n'a rien à voir avec... Alors j'ai pas la télévision, mais je sais qu'il y avait des émissions comme ça. Apparemment, une dame qui venait chez l'habitant, qui faisait des travaux... Non, ça vous dit rien ?
La guérie d'Amido.
Oui, voilà. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Hein.
Ça, non, c'est pas tellement ça. Nous, on n'est pas des artisans.
Emeline.
Oui, c'est Emeline. On n'est pas des artisans qui venons chez les gens. C'est vraiment, on fait avec les gens. Voilà. Oui, on essaye de le faire bien.
Il s'agit pas de faire de la décoration intérieure. Voilà.
Ça rentre aussi dans le contexte. Enfin, Sylvia peut en parler sur les chantiers. Elle implique les familles dans le choix des couleurs et des matériaux utilisés.
Oui, effectivement. Et quand on travaille avec le locataire, on travaille beaucoup sur ses choix. Et on prend en considération qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Donc avant de commencer les chantiers, il y a une démarche pour choisir le papier peint, la peinture, il y a un peu de décoration. Donc ils apprécient aussi d'avoir notre opinion avant de commencer les chantiers.
Concernant les matériaux, le financement de ces travaux, comment ça se passe?
On a un partenariat avec le Roi Merlin, donc c'est un de notre principal fournisseur. Et sinon, c'est en fonction de prix dans les marchés.
Et Solibat?
Solibat, pour parler de ce projet, donc c'est une plateforme en fait qui a été créée pour récupérer les invendus ou les surplus de production des fournisseurs, distributeurs de matériaux, soit pour les réinjecter sur nos chantiers, sur nos actions d'auto-réhabilitation accompagnée, soit pour proposer ces matériaux à un coût réduit à tout public sous condition de ressources. Donc à travers notamment le site soli-bat.fr qui permet à toute personne de créer un compte et d'accéder à des matériaux à coût réduit pour réaliser par lui-même ses chantiers chez lui.
Et éviter que tout cela finisse dans des décharges d'enfouissement.
Voilà, exactement. Quand même, pour aussi précisément limiter les déchets et mettre en place un cercle vertueux en matière d'économie circulaire.
il me semble que le public visé par vos actions serait un public en difficulté financière. Est-ce que je me trompe ?
Oui, en difficulté financière. Même si on demande systématiquement une contribution aux familles, notamment pour les matériaux, hein, proportionnellement à leur capacité et à leur reste à charge. Mais oui, effectivement, on s'adresse à un public qui est en grande précarité sur le plan financier, mais pas seulement, parfois aussi sur les questions énergétiques, par exemple.
D'accord. On ne parle pas souvent du mal logement. Évidemment, on pense à tous ceux qui ne sont pas logés, mais il faut aussi parler de ceux qui sont mal logés. Quelle visibilité, vous avez sur le mal logement en France par rapport à vos actions ? Ça concerne beaucoup de gens, beaucoup de personnes ?
Sur l'ensemble...
Je sais pas, sur l'ensemble du territoire d'Indre-et-Loire, par exemple, ou de Saint-Pierre-des-Corps.
Là, j'ai pas forcément les chiffres en tête sur le nombre de bénéficiaires en Indre-et-Loire. Peut-être ce que je peux dire, c'est que nous, on a en France, on a 12 en fait entités régionales, compagnons bâtisseurs. Donc, en ce sens, on est vraiment un mouvement. On n'est pas une fédération. Et chaque association régionale ensuite travaille sur ses propres territoires et mène des projets d'auto-réhabilitation accompagnée sur ces territoires. Et tout ça coordonné par une tête de réseau qui s'appelle l'Association nationale des compagnons bâtisseurs et qui à la fois porte des projets nationaux et qui joue aussi le rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour défendre l'intérêt de l'ARA, donc l'auto-réhabilitation accompagnée, auprès de nos financeurs et auprès des pouvoirs publics.
D'accord.
Moi, je dirais qu'on ne se rend pas trop compte, mais il y a beaucoup plus de familles ou de personnes âgées, de papy et mamie qui habitent de mauvaises conditions et de mauvais logements. Et parce qu'on ne voit pas, parce que chez nos amis, c'est pas comme ça. On ne croit pas, mais il y a beaucoup plus de personnes.
D'accord.
Pour donner une idée, là, on a fait un petit bilan sur les actions sur Tours et Saint-Pierre-de-Corps auprès des locataires. Depuis 5 ans, on est intervenu dans 99 appartements. Sachant que 83 d'entre eux étaient en QPV. Donc en quartier politique de la ville.
Voilà.
Donc voilà, c'est pour montrer aussi l'impact et l'importance aussi de notre présence sur le quartier.
Parce que j'imagine qu'il y a une incidence sur la santé de ces personnes qui occupent ces logements, une incidence aussi sur la socialisation de ces personnes peut-être. C'est pas évident d'inviter du monde chez soi quand les papiers peints sont dépassés, voire en train de tomber.
Bah, c'est vrai que ce qui se joue à travers la réhabilitation de l'habitat, c'est aussi l'image de soi et l'image qu'on renvoie aux autres. Donc effectivement, en fait, l'habitat, c'est quelque chose qui touche à l'intime et qui joue à... Comment dire, dans lequel se joue aussi notre rapport aux autres, puisque c'est le lieu où on accueille effectivement les autres. Donc le fait de réhabiliter cet environnement proche, c'est aussi une manière de réhabiliter le lien qu'on entretient à la fois au sein de son propre foyer et avec ses propres amis et avec son environnement proche.
On l'a bien compris, donc les compagnons bâtisseurs sont un mouvement national qui permettent donc de remédier à des situations de mal logement auprès de locataires ou propriétaires en mettant en place le dispositif de l'auto-réhabilitation accompagnée. Et on va aller faire un petit voyage sur Saint-Pierre-des-Corps. Là tout de suite, maintenant.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
On est où là ?
On est au Compagnon Bâtisseur à l'atelier de quartier de la Rabatterie. Donc voilà, on est en pleine animation, on fabrique un sapin en tuyau. Donc on est en train de découper et on est en train de faire une caisse, un coffre à jouer à roulettes, voilà, en bois.
Et vous êtes ?
Emeline, je suis l'animatrice Habitat des Compagnons Bâtisseurs.
Donc là on a un stock
de matériel qui nous sert pour les activités autour de la récup. Donc là on peut voir, il y a des restes de lanternes qu'on a fabriquées avec des végétaux, des panières en papier recyclé. Donc là c'est le stock récup. On a la cuisine où du coup le jeudi après-midi on peut venir manger ici. On mange ensemble. Donc les gens peuvent se faire réchauffer, préparer leur repas. Voilà la petite cuisine avec le balcon. Les toilettes. Là, on a une salle de bain qui nous sert à laver les pinceaux, le matériel quand on fait de la peinture ou qu'on fait des choses sales. On a ici un stock de bois où on stocke du bois pour faire des... Voilà, par exemple, le coffre à jouer de Brigitte, il est fait là. Là, c'est le bureau où on peut se détendre, où on peut aussi recevoir les familles qui ont besoin de chantier chez eux, où je les reçois. Donc, avec du mobilier fait par des jeunes avec de la récup. Voilà. Nous avons à côté l'outil tech et atelier aussi, où du coup, là, on stocke du matériel qui nous sert pour les animations et aussi que les gens peuvent emprunter pour chez eux. Donc, on a des visseuses, des perceuses, aussi tout ce qui sert à faire des produits. Donc, après, les gens peuvent venir emprunter pour une durée de 2 semaines s'ils en ont besoin pour chez eux. Et puis, après, la grande pièce à vivre où on fait les animations, où voilà, on bricole, on boit le café et on peut manger aussi le midi ensemble.
Je m'appelle Cindy Leocorché, j'ai 21 ans et là je fais 2 jours d'essai pour devenir future volontaire compagnon bâtisseur.
Je m'appelle Cindy Ledo, j'ai 20 ans, je suis volontaire depuis le 2 septembre et avant j'étais bénévole pour le projet du Maroc.
Marie-Jo Lorion et moi je suis une habitante de Saint-Pierre-des-Corps, adhérente à l'association des compagnons bâtisseurs et je viens pour les ateliers du jeudi après-midi.
Alors, qu'est-ce que vous faites pendant ces ateliers ?
Alors, plein de choses. Donc là, cet après-midi, on va faire un sapin de Noël avec des tubes en PVC.
D'accord. Donc là, vous avez découpé des rondelles.
Et après, on va placer, voilà, on va faire nos... Hein, et on va mettre des petites boules dedans et on va le suspendre.
D'accord.
Un truc dans l'espace.
Et ça fait combien de temps que vous participez à ces ateliers ?
Ça doit faire 2 ans ou 3 ans.
Et pourquoi vous participez à ces ateliers ?
Eh bien parce que ça permet de rencontrer des gens et de faire des choses et voilà.
Et de bricoler, non ?
De bricoler, oui.
J'aimerais bien savoir tout ce que vous avez appris en 2 ans au bricolage.
Oula ! On a fait de la mosaïque, on a fait de la gravure sur lino, on a fait des vitraux. Peinture sur verre. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Ah oui, on fait des produits naturels, des produits de beauté naturelle. Donc là, la semaine dernière, on a fait ça, mais gel pour les lèvres, du baume style... Comment tu dis ?
Respiratoire.
Des crèmes pour le visage. On fait de la lessive, des produits d'entretien avec du bicarbonate de soude. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais plus, Patrick, on a fait quoi? Oui, les cosmétiques, oui, mais...
On a fait de la couture.
Ah oui, on a fait de la couture, des petites lingettes démaquillantes, réutilisables. Donc, on a fait les pochettes pour les mettre dedans.
On a fait des bivraps.
Oui, bivrap, ça.
Oui.
C'est ce qui remplace le cello, ce qui va remplacer le cello frais. C'est un papier coton, un tissu coton enduit de cire d'abeille. Qui est réutilisable.
C'est écolo?
Oui.
Oui,
bah oui. Bah oui, puisque c'est réutilisable, ça se lave et ça se réutilise.
Bah, je suis Eva, je viens d'Allemagne et j'ai 18 ans. Et maintenant, je fais un service civique à la France pour, avec les compagnons bâtisseurs pour aider des familles à rénover ces maisons ou ces appartements. Ouais, on fait, c'est ça.
Et vous faites quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, je travaille à l'atelier avec des habitants, oui, qui habitent ici. Et aujourd'hui, on fait une chose.
Une caisse en bois pour jouer enfant.
Une caisse à boîte.
Caisse à bois, oui.
Ouais, on va aussi faire quelque chose pour Noël, une petite surprise. Ouais.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Moi, je suis Brigitte. Et puis, ben, comme je viens tous les jeudis pour faire de l'atelier, parce que c'est plaisant, et puis, ben, pourquoi pas, comment faire les choses, quoi. Alors, le mieux, c'est de venir, et c'est plaisant, parce que on découvre les personnes, différents âges, et puis, ben, si on veut faire autre chose, ben, ils sont là pour nous aider, et nous, on n'a plus qu'à suivre, et c'est très bien.
Ça fait combien de temps que vous venez?
Ben, moi, ça va faire un an.
Et vous avez appris quoi pendant cette année?
Eh bien, du bricolage, on fait des ateliers, enfin, il y a un mélange. Il y a un peu de tout, soit du bois, soit du papier, soit... Enfin, voilà, c'est chaque activité a sa façon d'être. Et nous, ben, on fait avec les outils qu'on nous demande à faire. Et...
Alors, vous pouvez m'expliquer, par exemple, là, vous faites un coffre à jouer?
Oui, voilà.
Depuis le début. Quoi? Alors bon, vous aviez l'idée, on va dire qu'elle est de vous. Elle est de,
oui,
vous d'ailleurs, oui.
Elle est de moi, oui, parce que je suis mamie et comme justement, de temps en temps, j'ai aussi mon petit-fils. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas lui faire une caisse en bois. Et c'est comme ça, l'idée est venue. Et comme là, bah, j'ai du monde pour m'aider, alors c'est super parce que toute seule, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas su.
Oh, c'est quelque chose quand même de faire un cadeau pour quelqu'un.
Oui, hein. Ben, la preuve, oui.
Il a quel âge, le petit-fils?
5 ans et demi.
Il va être content?
Ah bah oui.
Bien sûr.
Ah ben là, il n'y a pas photo, oui, sûr.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
Voilà, bon, à la fin, parce que j'ai fait une coupe au montage, bah, Brigitte nous explique qu'elle a coupé le bois, qu'elle l'a assemblé, etc., etc. Et puis, bah, voilà, c'est un cadeau qu'elle fait pour son petit-fils. Vous écoutez toujours Saint-Pierre Express sur le 97.4 FM. Il s'agit des compagnons bâtisseurs que nous recevons ici dans le studio avec Emeline Néron, animatrice Habitat, Sylvia Welbès, animatrice technique, Vincent Renogia, directeur adjoint des compagnons bâtisseurs, et Cindy en service civique. Sylvia Welbès, est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous, votre rôle d'animatrice technique?
Oui, mais je travaille à Saint-Pierre-de-Corps et je fais les chantiers maintiens. Ça veut dire que les familles qui veulent améliorer son logement, ils peuvent nous appeler et tous ensemble, on va refaire deux pièces qu'ils vont choisir. Donc ça peut être bien les couloirs et l'entrée, une chambre ou les salons, ça dépend. Donc d'abord, ils font un appel à nous, on fait une première visite et on étudie son dossier, son revenu, ses besoins, et on décide les travaux à faire. Après, on fait les plannings et en fonction de la disponibilité de tout le monde. Et on travaille avec des volontaires et la famille eux-mêmes. Donc, on demande toujours qu'il y ait quelqu'un de la famille pour nous aider et pour qu'il ou elle puisse apprendre comment faire. Et parce qu'on aimerait bien que dans les futurs et les prochaines occasions, eux-mêmes, ils peuvent faire les travaux tout seuls.
D'accord. Et comment... Pardon, excusez-moi.
Oui, donc on a 10 jours maximum pour faire les deux pièces. Et c'est toujours... on commence, et c'est très, on explique étape par étape tous les pas à faire. Et on proportionne tous les matériaux qu'il nous faut.
Et comment avez-vous acquis ces compétences techniques ?
Parce que justement, l'année dernière, j'étais volontaire. Donc pendant un été, c'était moi qui travaillais avec d'autres animateurs.
D'accord, volontaire en service civique ?
En service international. Donc moi, je suis espagnole. Et oui, à la base, je suis architecte, mais tous les côtés plus pratiques, je l'ai appris ici, avec les compagnons.
D'accord, on va un peu sortir du cadre de l'émission. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté à Saint-Pierre-des-Corps ? Vous êtes venu d'Espagne, vous avez fait un service volontaire international, et puis maintenant vous travaillez pour la France.
Mais c'est bien. Donc à la base, je suis assis à la France pour améliorer mon français, et après les compagnons bâtisseurs, parce que pendant mes études, on est passé la plupart du temps en face de l'écran de l'ordinateur, et je voulais avoir aussi les connaissances, et justement qu'est-ce qui se passe sur les chantiers. Et après 12 mois, j'ai des collègues super et tout se passe bien au travail. Et je suis contente là.
Merci pour eux. On va retourner donc dans le reportage qu'on vient d'entendre. Hein. C'était le 21 novembre dernier, lors des jeudis. Alors comment ça s'appelle les jeudis ?
C'est les jeudis des animations à l'atelier de quartier. Du coup, en fait, nous, les compagnons, on a un atelier de quartier qui est ouvert à tout le monde, pas forcément des gens du quartier de la Rabatterie. On est situé aux 12 rue de l'Aubrière et on est ouvert, du coup, tous les jeudis, de 9h à 17h sans interruption, où le matin, c'est un accueil libre, où les familles ou les gens qui veulent des chantiers peuvent venir à notre rencontre ou emprunter du matériel, chercher des conseils techniques, finir des choses qu'ils ont commencées, voilà. Et l'après-midi, on propose tous les après-midi une animation. Donc là, c'était fabrication d'un sapin en tuyau, sachant qu'on n'est pas fermé non plus, parce que vous voyez, il y avait Brigitte qui avait envie de continuer sur un travail personnel, donc... on a assez d'espace pour pouvoir se permettre de mêler deux animations en même temps. Voilà, donc c'est un moment convivial et puis les habitants se retrouvent.
Et oui, ça revient souvent, on l'entend dans le reportage, la dimension sociale, et vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure quand on parlait des chantiers où vous demandez aux familles de s'associer. Vous n'êtes pas des prestataires de services, hein, vous demandez à ce qu'il y ait une mise en mouvement justement qui se fasse. Est-ce que, enfin, en quoi, expliquez-moi, en quoi justement le bricolage, le travail manuel, mais autour de chantiers, j'allais dire, qui sont en lien avec le bâtiment, ont-ils une dimension sociale ?
Pour moi, ce que j'ai vécu pendant le chantier, c'est qu'en travaillant, quand tu fais déjà une activité, c'est beaucoup de fois plus facile de parler avec les gens. Et aussi le fait de montrer que c'est possible, que moi, je n'ai pas une formation professionnelle en peinture, mais que si on a l'intérêt, on peut apprendre à faire et de transmettre aux habitants ses choix et c'est les encourager à partir de là. Après, le fait qu'on travaille aussi avec des étrangers, maintenant on a deux volontaires marocaines et une autre volontaire allemande, et pendant les chantiers, ça permet aussi de parler des choses culturelles, les différences, beaucoup de nourriture. On partage beaucoup de fois les repas avec les familles et c'est un moment de chance que je crois que ça les fait plaisir aussi.
Et oui, d'accord.
On travaille beaucoup de fois chez des familles, des femmes qui ne sortent pas beaucoup de son appartement et que ça allait permettre d'avoir des rencontres avec des jeunes.
Et oui, parce qu'on travaille, donc à un moment, il faut faire une pause, il faut manger. Et puis on a tous travaillé, donc on a partagé le travail, mais on partage aussi l'instant du repas.
Oui, pas mal de couscous.
Ah bon, d'accord. Et puis tous ces échanges, j'imagine, bah tiens, passe-moi le marteau, ah bah je sais pas comment on fait le papier peint, est-ce que tu peux venir me donner un coup de main ? Il y a des gestes techniques aussi, des fois, qui demandent qu'on soit deux, on peut pas être tout seul. Enfin, je pense à du papier peint, par exemple, on travaille mieux à plusieurs, c'est peut-être ça aussi.
La plupart du temps, on travaille en binôme, donc on est deux, quatre, et c'est comme... Comme ça, c'est plus facile et plus sympa aussi.
On l'a entendu dans le reportage, il y a une service alors volontaire international voilà, qui est présente. Donc, c'est l'allemande, hein, certainement, dont vous venez de parler. La place des services civiques au sein de l'association, Cindy, comment est-ce que vous avez intégré les compagnons bâtisseurs ?
Eh bien, avant je venais aux ateliers de quartier et j'ai participé au projet du Maroc où j'ai été bénévole là-bas faire les chantiers.
Alors, le projet du Maroc, c'était quoi ?
C'était un projet où plusieurs volontaires allaient au Maroc faire des chantiers comme on peut faire ici en France, mais au Maroc. Et on a été 3 semaines volontaires pour faire 3 chantiers.
Et peut-être aussi pour compléter ce que disait Sylvia et ce que dit Cindy sur le rôle des volontaires, c'est quelque chose qui est assez déterminant aussi dans la relation avec l'habitant, dans le sens où le volontaire, qu'il soit en service civique ou que ce soit un volontaire international, comme l'habitant, est en situation d'apprentissage. Et ça permet de casser aussi cette relation entre l'animateur technique qui sait et l'habitant qui apprend. Mmh. Le volontaire, lui aussi, apprend. Et nous, on parle beaucoup d'échanges de pratiques et de savoirs. Et on reçoit aussi beaucoup des habitants. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une transmission de gestes techniques, de savoir-faire. Le volontaire est là pour aussi montrer à l'habitant que lui aussi, en situation d'apprentissage, et de le mettre vraiment à l'aise par rapport à ça. Et en même temps, il y a l'idée d'une réciprocité. C'est-à-dire, nous, on reçoit aussi, ne serait-ce que l'accueil que nous propose l'habitant, parfois ses confidences, il nous ouvre aussi à son espace privé, à son intimité. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on reçoit comme une richesse dans notre métier.
Mmh. J'ai l'impression qu'on est dans une démarche d'éducation populaire où la transmission du savoir ne serait pas de manière verticale, mais horizontale.
Oui, mais je pense que ça fait partie de l'identité du mouvement Compagnons Bâtisseurs et je pense que cette réciprocité, elle garantit aussi même la pérennité de nos actions. Tout à l'heure, Sylvia évoquait le fait que l'habitant, par exemple, participait systématiquement au choix des couleurs. C'est-à-dire l'idée de faire avec la personne, bien sûr, c'est pour aussi transmettre des savoir-faire, des gestes techniques, mais c'est aussi pour derrière garantir une réelle appropriation de ce qui va être proposé dans le logement ou de ce qui va être transformé, que ce soit pas quelque chose qui soit finalement plaqué par le haut et qui derrière soit trop décalé des réalités de l'habitant en fait dans la vie quotidienne. Donc d'être au plus près en fait des usages, au plus près de l'habitant en l'impliquant dans les choix techniques et en le faisant participer dans la mise en œuvre.
Très bien, merci. Nous allons marquer une première pause musicale avec LEJ Summer 2015.
Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. Freedom! For each other, but the night was warm. We were bold and young. All around the wind blow, we would only hold on, let go. Blow kiss, fire again. We needed someone to lean on. Blow kiss, fire again. All we needed somebody to lean on. Freedom.
Et c'est comme ça qu'on
beat in my drum black drum day. I love the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name. Like hey mama, mama, hey mama, mama. Beating the drum black drum day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name. Like hey mama, mama, hey mama, mama. Be my woman, girl, I'll be your man. Be my woman, girl, I'll be your man.
temps, je fais bouger les têtes. Tu connais mes textes, connais pas ma technique, mec, pété qui. Je vise le bingo, que des faux lingots, éviter les bimbo, mat mon équipe, ça fout les boules, ouais, ça les dégoûte. Car nous on déboule comme des fous dans la foule, mais on passe à ses coups, toi tu restes à l'écoute, on se serre les coudes, ils nous fait pour des fous.
J'suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi.
Sem, sem, sem.
Un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme
toi.
Balabalada papaya, venga baila comme ça qu'on
sème, sème, sème.
Me laisse pas solo, solo, conmigo.
Gangsta,
comme ça qu'on.
Eh mama, mama, eh mama, mama.
Som, som, som.
Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. I'm too hot, hot,
hot, hot damn.
Hot damn.
Call the police and the fireman. I'm too hot,
hot, hot, hot damn.
Hot damn.
Make a dragon wanna retirement.
Girls hit you, hallelujah.
Woo!
Girls hit you, hallelujah.
Woo!
Girls hit you, hallelujah.
Woo!
Girls hit you, hallelujah.
Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. I'm in love with the coco.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
C'est Maëlle du collège Pierre Corneille qui a fait l'introduction de cette émission. Et puis bah voilà, une question improvisée pendant la pause musicale.
Du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous, les matériaux que vous utilisez pour aider les personnes que vous aidez, est-ce que vous prenez en compte l'environnement ou vous prenez pas du tout en compte l'environnement.
Alors, la dimension environnementale, elle est vraiment centrale dans toutes nos actions et elle est partagée par l'ensemble du mouvement Compagnons Bâtisseurs. On essaye, dans la mesure de nos financements, de choisir des matériaux qui sont écologiques. Et l'autre élément, c'est que un certain nombre de produits et de matériaux proviennent de notre plateforme Solibat, qui est elle-même issue de l'économie circulaire. Donc, on récupère des matériaux qui auraient dû être jetés et on les réinjecte sur nos actions. Donc en ce sens-là, on s'inscrit déjà dans une économie vertueuse localement.
D'accord.
Dans le studio, il y a Sylvia Welbès et Cindy
Godot.
Voilà, qui est donc service civique depuis peu aux Compagnons Bâtisseurs. Vous avez parlé tout à l'heure d'un voyage de 3 semaines au Maroc.
Oui, effectivement, pendant le fin juillet et mois d'août, on est passé 3 semaines à Abdebdou, c'est une petite ville pas loin de l'Algérie. Et là-bas, on a fait 3 chantiers différents. On est parti combien? 20 jeunes de ici de France, plus ou moins.
10 jeunes de France.
D'accord, un peu moins. Donc 10 jeunes de France et là-bas, il avait au moins 10 jours marocains qui travaillaient tout le jour avec nous. Donc d'abord, on a fait un chantier peinture. On a fait la peinture dans les rues. Et donc des façades tout blanc avec la chaux. Et sinon, c'était un parc pour des enfants.
Mmh.
Donc on a utilisé beaucoup de matériaux de réemploi. Et les 3e, on a aidé une femme à refaire son logement. Donc vraiment avec des artisans locaux. On a refait les toitures, l'installation d'eau, l'électricité.
D'accord. Comment se mettent en place ce genre de partenariat international, internationaux, pardon?
Oui, peut-être préciser que, alors, nous, en région centre, chez les Compagnons Bâtisseurs région centre, on tient beaucoup à ce projet au Maroc, comme à d'autres projets qui ont une dimension internationale, comme un échange aussi franco-allemand qu'on organise chaque année. Alors, c'est un petit peu un retour aux sources parce que les Compagnons Bâtisseurs, avant de s'être professionnalisés, fonctionnaient essentiellement sur des chantiers internationaux. Et dans ce cadre-là, le chantier était aussi un support, en fait, à la rencontre entre des personnes de cultures différentes. Et là, au Maroc, c'est vraiment l'élément qui a été déclencheur. C'est comment réussir à proposer aux volontaires une expérience qui soit forte et qui culturellement aussi les décentre, pour leur permettre d'avancer, de prendre peut-être mieux conscience d'eux-mêmes, de leur culture et de leur identité. Et ce qui se joue aussi sur les chantiers au Maroc, c'est la rencontre avec une autre culture dans la vie quotidienne. Et à travers cette rencontre, ben finalement, c'est la connaissance de soi qui se réalise.
J'aimerais bien, attention, on passe à un autre niveau. J'aimerais bien avoir l'avis d'une architecte sur la place de l'habitat dans les sociétés humaines. Vous avez fait des études d'architecture?
Oui, en Espagne.
On vit dans un monde en fait où l'architecture nous pas nous envahit, mais est omniprésente.
Oui, c'est un peu ça. C'est une fois que tu as commencé tes études, tu regardes un peu ton entourage, ton environnement de façon différente. Donc, surtout, je dirais qu'après la crise économique qu'on a tous vécu, et peut-être plus forcément en Espagne, le rôle de l'architecte, il a basculé, il a changé, ça a amplifié. Donc, pour moi, maintenant, c'est pas que la construction des bâtiments et logements, mais il y a beaucoup un rôle social et un sens très fort de travailler avec les habitants du quartier pour les rendre plus conscients de son pouvoir et le rôle qu'ils ont à jouer dans son entourage.
Parce qu'on a souvent l'impression que l'architecture nous est imposée. Enfin, je pense à tous ces enfants, ces jeunes là qui vivent dans des environnements, dans des écoles, des centres de loisirs, des rues, etc., qu'ils n'ont pas choisi. Leurs parents non plus, d'ailleurs. C'est souvent, d'ailleurs, j'allais dire, le rôle des architectes qui nous imposent un petit peu la manière dans laquelle on va se déplacer, dans la manière de laquelle on va vivre aussi dans telle ou telle pièce. Ils ont un grand pouvoir, ces personnes. Et donc l'idée, vous, c'est justement que le peuple se réapproprie. Je sais pas, cette science de l'architecture,
c'est... Pour moi, ça sera l'idéal. L'idéal, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'en plus, le financement, c'est pas les propres habitants qui vont le faire. Donc, c'est vrai que beaucoup de fois, les architectes, ils travaillent pour les politiciens et beaucoup de fois, il faut vendre l'idée à des gens qui sont pas des professionnels et qu'ils vont pas habiter non plus dans ces future construction. Donc on travaille beaucoup avec des images et c'est pas forcément la réalité. Donc c'est pour ça que le travail qu'ils font des associations comme les Compagnons Bâtisseurs et beaucoup d'autres qui essayent de... Pour moi c'est aussi l'architecture mais à une échelle beaucoup plus petite mais à la fois beaucoup plus humaine. Et moi c'est là où je me trouve en tant qu'architecte et que je trouve le sens à... Mais c'est tout.
D'accord.
Et pour peut-être pour compléter ce que dit Sylvia, c'est vrai qu'on essaye aux Compagnons Bâtisseurs de s'éloigner de toute approche normative vis-à-vis de l'habitat. Et c'est vrai que je pense que depuis que l'architecture existe, derrière le fait d'aménager les espaces ou d'aménager le logement, il y a toujours eu l'idée aussi d'aménager les pratiques des gens ou en tout cas de les orienter à travers les dispositifs techniques, à travers l'aménagement de l'espace. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, on essaie plutôt de faire la démarche inverse, de partir plutôt des habitants, de les mettre sur le devant aussi de la scène, de partir de leur réalité pour aller vers l'amélioration de l'habitat. Et d'ailleurs, dans habiter, ça vient aussi d'habitude. On essaye de partir des habitudes des personnes pour construire le projet d'amélioration de l'habitat, plutôt que de le plaquer dans une vision plutôt experte ou techno.
Pendant le Maroc, ça nous arrivait quand on a fait les visites de la maison de la femme chez laquelle après on a travaillé. C'était étonnant de voir, moi j'arrivais avec mon conception de qu'est-ce que c'est une maison tellement européenne, je sais pas. Et c'était elle qui me disait, non, mais en fait, j'ai pas besoin d'une douche, parce que moi, avec une robinet, ça me va. Moi, j'ai pas besoin. Donc, beaucoup de fois, on veut imposer des choses que pour nous sont essentielles, mais que pour d'autres gens, ça va pas faire améliorer son jour à jour.
Et peut-être juste pour ajouter quelque chose justement sur les chantiers internationaux, c'est aussi l'intérêt de travailler sur le thème de l'habitat, parce que quand on découvre l'habitat dans une autre culture, en fait, on découvre vraiment des pratiques de la vie quotidienne. On prend conscience aussi de tout un tas de choses qui sont différentes.
Le meuble à Maroc, par exemple, il faut seulement qu'ils sont... Et tu peux les bouger tous les jours. Donc il y a beaucoup de meubles en plastique parce qu'ils ne restent pas dans les mêmes places pendant la journée. Toutes les affaires, ils sont toujours cachés dans des armoires et ils sont pas visibles. Quand tu entres dans une chambre, c'est vraiment minimaliste, vide. Mais c'est...
Oui, c'est-à-dire que finalement, l'habitat dit quelque chose de la manière de vivre des gens. Et surtout dans des pays du Sud où on parle d'architecture vernaculaire, où finalement l'architecture, elle dit quelque chose de la manière de vivre des gens. Et on y voit comment est-ce qu'on accueille les invités, les rapports entre les hommes et les femmes. Et donc pour les volontaires qui vivent cette expérience au Maroc, ça leur permet aussi de remettre en perspective leurs propres habitudes et de prendre conscience aussi finalement de leur propre manière de fonctionner.
Cindy Godot, quelles ont été vos motivations pour intégrer donc ce poste de service civique au sein des compagnons bâtisseurs ?
Eh bien, c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses tous les jours, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre sur nous et sur le confort. Notre vision du confort à nous, les jeunes, entre guillemets, n'est pas la même que celle qu'on voit chez l'habitant au quotidien.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, concrètement ? Alors, ça fait pas longtemps que vous êtes service civique.
Eh bien, ça m'a appris à m'ouvrir plus l'esprit, de voir d'autres choses que ce que je vis moi, chez moi et chez mes parents. Ou autre, c'est pas forcément la même chose.
Vous connaissiez les associations ? Vous aviez déjà travaillé au sein d'une association en tant que bénévole, par exemple ?
Non, du tout.
Alors, vos premières impressions ?
C'est très compliqué. Parce que
oui.
On voit différentes choses. Quand on est avec Sylvia, par exemple, on voit une toute autre organisation que quand on est avec Emeline ou quand on est dans les bureaux de l'association. On en apprend tous les jours.
Et j'imagine aussi que c'est riche en rencontres humaines.
En rencontres humaines, oui, et surtout en culture. Ma tête, elle se remplit de plus en plus chaque jour.
Oui, alors ça, c'est l'étrange pouvoir du cerveau humain. On peut le remplir et le remplir jusqu'à la fin de notre vie. Il ne changera jamais de volume. c'est un peu magique. On va poursuivre avec la diffusion de 3 capsules qui ont été enregistrées. Donc, c'était le 16 octobre dernier, si je ne m'abuse, à Saint-Jean-de-Bray, lors d'une journée de la transition organisée par la ville de Saint-Jean-de-Bray, Saint-Jean-de-Bray en transition. Et bah, le Bricobus était là, le Bricobus des compagnons bâtisseurs. Et qui c'est qui s'occupait de ce Bricobus ? Eh bien, c'était Guillaume Beck. Et on va l'écouter donc nous présenter le Bricobus, nous expliquer à quoi sert ce Bricobus et l'histoire du Bricobus.
On est devant le Bricobus des compagnons bâtisseurs Centre Val-de-Loire, une solidarité à bâtir. Le Bricobus, il y a écrit dessus, chantier itinérant et solidaire, animation collective, prêt d'outils, conseil technique, aide technique, financière, matérielle. C'est quoi ce Bricobus, Guillaume Beck ?
Alors, bonjour. C'était le Bricobus, c'est un projet qui a fonctionné sur le Loiret, là, et puis en Indre-et-Loire aussi. On faisait des chantiers, on va accompagner les gens à rénover leur logement. On appelait ça l'auto-réhabilitation accompagnée, ARA. ARA. Et du coup, on faisait des petits chantiers chez les gens, souvent sur des petits détails où ils n'avaient pas forcément d'aide financière de l'État, ces choses-là, comme des tableaux électriques ou des petites choses, je sais pas, des éviers, des dallages, puis de l'embellissement, de la peinture, des choses comme ça. Mais l'idée, c'était que les gens apprennent à rénover leur logement par eux-mêmes, quoi. C'est des chantiers sur une dizaine de jours, souvent.
Alors, il sert à quoi ce Bricobus ? Il y a quoi dedans ? On peut le visiter ?
On peut le visiter si vous voulez, il n'y a rien d'exceptionnel. Après, c'est des outils de travail. Parce que du coup, on touchait un peu à tous les corps de métier, selon les problématiques qu'on avait. Donc, on a des fois un peu d'enduit, des fois un peu de plomberie, des fois un peu de, je sais pas, de maçonnerie, d'électricité. Donc, on a un peu tout ça qu'on essaye de tenir rangé au mieux.
Donc, il y a plusieurs corps de métier qui sont présents, en fait, à l'intérieur, enfin, en termes de matériel, à l'intérieur du camion.
C'est ça, il faut qu'on puisse répondre aux différentes problématiques qu'on va rencontrer sur les chantiers. Parce que nous, des fois, c'est le bouche-oreille, des fois, c'est les travailleurs sociaux qui nous orientent vers telle ou telle famille. Et là, quand on rentre chez les gens, on prend le temps de discuter, de faire connaissance, et ils vont nous présenter les problèmes qu'ils ont. Et puis nous, on va aussi avoir notre regard. C'est-à-dire qu'eux, la priorité, ça va être peut-être, je sais pas, un plafonnier qui marche plus, une prise qui fonctionne plus, alors qu'à côté de ça, il y a un gros problème sur, je sais pas, la ventilation, sur une pièce qui se dégrade, ou un danger sur un radiateur, des choses que nous, on va voir. On va voir la vie des personnes, leurs besoins, puis nous, on va dire, ouais, attention, mais par contre, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, qu'il faut faire attention, sur lequel on peut vous aider. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'outillage pour un peu tous les petits dépannages, quoi. Ça peut être un peu de chantier un peu plus conséquent, des fois, ça vous arrive de dire, là, on va mettre des étés partout parce que c'est en train de s'écrouler, donc on va faire de la maçonnerie. Mais après, on fait pas, ça s'arrête au... ça s'arrête aux compétences de l'animateur en fait. Lui, s'il sent de faire ça ou ça, il le fait. S'il se sent pas, comme c'est lui qui est responsable du chantier, c'est lui qui est responsable de la bonne mise en œuvre, des matériaux, de la sécurité, de l'animation du chantier, à lui de trouver de l'aide normalement auprès d'un artisan, pourquoi pas. Parce que comme on est reconnu d'intérêt général, on peut recevoir du mécénat défiscalisable, donc du mécénat de matériaux ou de main d'œuvre. Voilà, en gros. Donc, c'est pour ça qu'il y a des outils pour un peu tout ça là-dedans. On peut acheter un œil.
Il a toujours existé, ce Bricobus ? Enfin, depuis quand vous l'avez ?
Ah, le Bricobus, c'est... En fait, c'est quelque chose qui est né il y a 4-5 ans maintenant en région centre. Parce que les compagnons bâtisseurs, c'est un mouvement national. Il y a des assos dans toutes les régions de France, ou presque, et dans les dom-tom. Et la région centre a inventé le Bricobus il y a 4-5 ans pour répondre à une problématique spécifique. Finalement, c'était les gens qui bénéficiaient des aides de l'ANA, des aides qui sont compliquées.
Donc, l'ANA ?
Ah pardon, oui. L'ANA, c'est l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, ANAH, et qui distribue les aides à la rénovation. Donc c'est des aides pour principalement la rénovation thermique, surtout. Mais après, il y a d'autres choses, et ça dépend des territoires. Mais du coup, c'est des aides qui sont compliquées à mettre en place parce que ça se base sur des devis, ça se base sur une durée d'instruction qui peut être assez longue. Et des fois, il y a des problématiques qui sont plus urgentes. Un tableau électrique qui risque qu'à 70 ans, ou des prises, ou des robinets qui ne fonctionnent plus. Ça, il n'y a pas forcément d'aide pour ça. Et les gens sont démunis parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne savent pas faire, parce qu'ils n'osent pas y toucher. Et là, le Bricobus peut intervenir plus rapidement. C'est quelque chose qui va être complémentaire à celle de l'ANA. C'est dans cette face à cette problématique-là, en fait, que c'est un peu né. Et du coup, il y en a eu un tout premier expérimental qui était au début sous forme d'une bricothèque itinérante qui allait prêter des outils, donner des conseils. C'était sur l'Angers, près de Tours. Et il y en a eu un deuxième, enfin le premier, le second, le premier vraiment sous forme de Bricobus directement, c'est celui qui a tourné là, celui qu'on voit aujourd'hui, et qui a tourné sur Beaune-la-Rolande pendant 2 ans, entre l'été 2016 et l'été 2018. Là, il est en stand-by depuis ce temps-là, et peut-être qu'il reprendra un jour, j'espère, parce que ça a marché très bien, la collectivité était très contente du dispositif, mais bon, et après, il y a eu des problématiques de financement, ça a duré 2 ans, et puis des problématiques après sur l'organisation de la communauté de communes, avec l'époque des fusions entre communautés de communes, enfin voilà.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
Avec les compagnons bâtisseurs, on vient d'entendre donc Guillaume Beck qui nous parle du Bricobus. Quelques mots sur le Bricobus.
Peut-être d'ajouter que d'une part que c'est une innovation effectivement qui est née en région centre et finalement autour d'un principe fort qui est le fait d'aller vers les personnes. En partant du constat que beaucoup de dispositifs existants partent souvent du présupposé que les gens vont aller vers les aides qui existent, alors que ce soit les aides de l'ANA, donc l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, mais en tout cas qui part du principe que les personnes, les familles qui rencontrent des problèmes dans leur habitat vont aller vers les dispositifs qui existent et qui leur sont proposés. Là, le Bricobus, l'idée, c'est d'être itinérant et d'aller vers les personnes. Donc on a là aussi des situations qui remontent à travers les mairies, les travailleurs sociaux, là aussi un collectif qui est mis en place à chaque fois sur le Bricobus et qui permet aussi par le bouche à oreille en fait d'identifier des situations qui posent problème et de tenter de les résoudre avec les habitants.
Un rayonnement régional.
Absolument. C'est d'ailleurs une innovation qui était lauréate de plusieurs fondations, notamment la fondation La France s'engage, et qui désormais s'essaime dans toute la France. On a aujourd'hui une dizaine de Bricobus sur le territoire national.
Cocorico.
Voilà.
De nombreuses actions pour les compagnons bâtisseurs. Donc on a parlé de l'autoréhabilitation accompagnée, des ateliers de quartier qui se déroulent tous les jeudis de 9h jusqu'à 17h au 12 rue de l'Aubrière dans le quartier de la Rabatterie. On a échangé aussi sur la place des services civiques au sein de votre association. L'atelier de quartier va fêter ses 10 ans en avril 2020. Emeline, un bilan comme ça? Alors, vous n'étiez peut-être pas là dès le début?
Alors, non, moi je suis là depuis 2 ans. Effectivement, l'atelier de quartier va fêter ses 10 ans l'année prochaine, en 2020. Donc, il y aura un gros événement au mois d'avril où tous les habitants de Saint-Pierre-des-Corps seront conviés à faire la fête et à fêter cette dizaine, ce passage de dizaine, avec des nouvelles propositions aussi sur l'atelier de quartier. Une rétrospective très certainement, c'est en train de se monter, donc des expos, etc. aussi avec les différents partenaires qu'on a pu avoir autour depuis 10 ans sur le quartier.
Quelle perspective pour l'association régionale en 2020 ?
Alors en 2020, on a une grande nouveauté, alors plutôt du côté du Loiret, puisque on va intervenir dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain dans le Loiret, à Orléans, avec une dynamique qui est vraiment très forte entre 7 bailleurs du Loiret, également la métropole d'Orléans. Et l'idée, c'est de réhabiliter une dizaine de chantiers, ça va faire sur 50 chantiers par an. Sur 7 ans, ça fait 350 chantiers. Donc c'est assez colossal pour nous et c'est une nouveauté. Donc ça nous amène aussi à développer notre équipe du côté du Loiret. Mmh. Et voilà, on renforce la dynamique pour les années qui viennent.
D'accord, des logements qui se situent toujours dans les QPV, quartiers prioritaires de la ville. Hein.
Donc dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain.
D'accord, très bien. Et puis, plus proche dans le temps, bah, le réveillon solidaire.
Oui, bah, vendredi, le réveillon solidaire, comme depuis plusieurs années sur Saint-Pierre-des-Corps, à la salle Joliot-Curie, où du coup on est en partenariat avec CISPO et puis SAC Amalis pour proposer aux habitants et aux adhérents de nos associations une belle soirée de fête avec un repas de qualité et puis de la musique. Il y aura des animations pour les enfants. Donc une belle soirée en perspective pour fêter cette fin d'année.
Et êtes-vous fier de ce qu'a accompli l'association des compagnons bâtisseurs?
Ça fait un petit peu prétentieux de dire oui.
Un regard neuf, Cindy Godot, qui vient d'intégrer justement l'association. Votre regard sur tout ce que fait l'association. Est-ce que les bénévoles qui font partie de l'association, qui œuvrent pour l'association, peuvent être fiers d'eux-mêmes?
Je sais pas si c'est bien de dire qu'on est fiers de nous ou pas, mais quand on finit un chantier ou que les personnes repartent des ateliers de quartier avec leurs œuvres, les voir sourire, les voir fiers, les voir contents, on peut dire qu'on peut être fiers de ça.
Bah oui, moi je pense qu'on a le droit d'être fiers, d'être ensemble, déjà. Oui. De travailler ensemble, encore mieux, c'est un défi des fois aujourd'hui aussi d'échanger, de construire ensemble. Oui, je pense que vous pouvez être fier de vous. Enfin, je sais pas, Maëlle, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben oui, moi je suis.
Après, ils travaillent pas pour la gloire et c'est tout à leur honneur. Vous pouvez rejoindre les compagnons bâtisseurs tout simplement déjà en allant chercher, glaner quelques informations sur les réseaux sociaux tels que Facebook, hein, en tapant compagnons bâtisseurs au pluriel centre. Vous pouvez également aller sur leur site www.compagnons-bâtisseurs-au-pluriel.eu ou alors les contacter au 02 47 61 32 10. 32 10 et enfin les joindre en allant aux 2 avenue du Général de Gaulle à Tours, c'est bien ça?
En fait, il vaut mieux éviter d'aller aux 2 avenue du Général de Gaulle parce D'accord. que c'est notre siège social, donc on n'a pas tellement d'accueil pour le public. Il vaut mieux venir aux permanences le jeudi toute la journée,
aux 12 rue de l'Aubrière. Voilà. Et puis l'ambiance, elle est sympa et le lieu aussi, il est sympa parce qu'on sent que les habitants se le sont appropriés. Enfin, pour y être allé, le mobilier est fait maison, la déco est faite maison, et ça a du caractère.
Bah, tant mieux, si c'est ce qui est en ressort, c'est ce qui est voulu, donc tant mieux si ça se voit. C'est les habitants qui ont fait les peintures, qui mettent leurs créations aussi affichées sur les murs, il y a pas mal de photos. Venez voir, c'est mieux que l'écouter.
Mais oui, bien sûr, parce que moi je me rappelle de ce lieu où on a préparé cette émission avec un patchwork de papier de toutes les couleurs avec des motifs différents qui était au mur, c'était super sympa.
Ouais, il y a plein, en plus il y a plein de bonnes idées à prendre pour chez soi, avec des petits budgets, avec des récups, on peut faire des choses assez sympas, originales et qui met un peu de gaieté.
Et oui, et puis en fait, je suis en train de me dire là, parce qu'il est temps de conclure, que bon, évidemment, c'est important la dimension financière dans le monde, mais il y a des choses qui ne coûtent rien, bah, c'est les échanges humains, quoi. quand même travailler ensemble, être ensemble les uns avec les autres. Et puis on peut faire des économies aussi en faisant du recyclage, mmh, avec des plateformes comme celle-ci, celle-là. On peut découvrir le monde sans sortir de son quartier grâce aux services internationaux aussi, voilà, qui nous apportent leur culture et puis nous-mêmes la leur. Il y en a même d'ailleurs qui sont restés. Ouais. Je pense à Sylvia.
Et effectivement, c'est vrai que de notre point de vue, le savoir, c'est peut-être une des rares choses qui s'augmente quand on le partage. Et dans ce cadre-là, bon, on essaie vraiment de s'inscrire dans une dynamique d'éducation populaire avec les habitants avec qui on travaille.
Saint-Pierre Express, c'est pas terminé. On ferme donc cette page de vie locale. Et donc à 17h, ça va être les thématiques quotidiennes que vous retrouverez tous les jours de 17h à 18h. Et là, il va être question du collectif du Tram. Merci à Emeline Méron, à Sylvia Welbès, à Vincent Renaud-Giard, ainsi que Cindy Godot, tous les quatre des compagnons bâtisseurs, ainsi que Maëlle qui m'a assisté pour cette émission, et Jules et Elena qui étaient à la technique pour citer Radio. Bonne écoute sur Saint-Pierre Express 97.4 FM.